Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Durant cette première saison, nous avons abordé les rêves et leurs interprétations d'un point de vue psychothérapeutique. Nous avons exploré les théories freudiennes et jungiennes, ainsi que les méthodes d'interprétation qui s'y rattachent. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet, et nous aurons, je l'espère, l'occasion d'en reparler. La fin de cette première saison de La Voix des Songes approchant, je tenais également à évoquer le cas de certains rêves dont les différentes interprétations psychologiques, bien que pertinentes, ne seront jamais pleinement satisfaisantes tant ces expériences oniriques sont troublantes et nous interpellent fortement. Je parle des grands rêves. Pour faire simple, ce sont des rêves tellement marquants, quel que soit le scénario, que l'on n'a pas besoin de les écrire pour s'en souvenir et ils restent en nous, intact, toute notre vie. On en a toujours deux ou trois, en général, qu'on garde secrètement en nous. Pour bien comprendre de quoi il est question, je vous invite une nouvelle fois à faire un saut dans le temps pour retourner à l'âge d'or de l'onirocritique, l'Antiquité. À cette époque, on faisait une distinction très nette entre les rêves et les songes. Les premiers, les rêves, correspondaient à des scénarios nous replongeant dans le quotidien, c'est-à-dire des rêves où l'on se retrouve à vivre une situation déjà vécue. De par leur redondance avec la réalité, ces rêves étaient considérés sans intérêt et n'étaient donc pas soumis à l'interprétation. Les songes, quant à eux, sont des récits oniriques qui dénotent plus ou moins fortement avec la réalité. Par exemple, dans une émission, nous avons analysé le songe de César, rêvant qu'il violait sa mère. Dans la réalité, l'acte en question ne s'est jamais produit. Ce rêve a fortement troublé César, ce pourquoi il est allé consulter, comme on dirait aujourd'hui. Consulter des devins, et pas des psys. C'était une autre époque, certes, mais également c'est une autre démarche. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la croyance derrière l'interprétation des songes. Les songes seraient l'un des moyens privilégiés de communication entre le monde des dieux et le monde des hommes. C'est donc cette croyance, selon laquelle les dieux interpellent les hommes à travers les songes, et non les rêves insipides du quotidien, qui est au fondement de la pratique de l'interprétation des songes. Pratique que l'on retrouve en particulier dans les fameuses clés des songes, foisonnante durant l'Antiquité. Bien que l'humanité ait beaucoup évolué depuis cette époque lointaine, la question des croyances reste malgré tout un facteur discriminant dans le développement des méthodes d'interprétation des rêves modernes. De nos jours, dans une perspective psychothérapeutique, plus de distinction entre rêves et songes. Tous les récits oniriques sont dignes d'intérêt, car ils expriment tous, d'une manière plus ou moins grandiose et caricaturale, la réalité psychique du sujet. Alors, intéressons-nous à nouveau à Freud. Dans l'interprétation des rêves, nous trouvons un exemple de rêve qui attire notre attention concernant le sujet d'aujourd'hui. Le rêve de l'enfant mort qui brûle. C'est un rêve de seconde main, c'est-à-dire que Freud l'a entendu d'une de ses patientes qu'il a elle-même entendue au cours d'une conférence sur les rêves. Voici la situation telle qu'elle a été racontée à Freud. Un père a veillé jour et nuit, pendant longtemps, auprès de son enfant malade. Après la mort de l'enfant, il va se reposer dans sa chambre à côté, mais laisse la porte ouverte afin de pouvoir, depuis sa chambre, regarder celle où le cadavre de son enfant gît dans le cercueil, entouré de cierges. Un vieillard a été chargé de la veillée mortuaire. Il est assis à côté du cadavre et marmonne des prières. Au bout de quelques heures de sommeil, le père rêve que l'enfant est près de son lit, lui prend le bras et murmure d'un ton plein de reproches. « Ne vois-tu donc pas que je brûle ?» Il s'éveille, aperçoit une vive lumière provenant de la chambre mortuaire, s'y précipite, trouve le vieillard assoupi, le linceul et un bras du petit cadavre ont été brûlés par un cierge qui est tombé dessus. L'interprétation de ce rêve proposée par le conférencier, et à laquelle souscrit pleinement Freud, est la suivante. L'incendie aurait provoqué un stimulus visuel à travers les paupières closes par augmentation de l'intensité lumineuse qui aurait causé ce rêve. La cause est donc purement somatique. Mais Freud rajoute que tout rêve est l'accomplissement d'un désir, et donc ce rêve viendrait réaliser le désir du père que son fils soit toujours vivant. Restons-en là pour l'instant. Poursuivons avec Jung. Dans son séminaire sur la méthode d'interprétation des rêves, il affirme, grâce à son expérience de clinicien, l'existence de rêves prémonitoires et télépathiques. Ce n'est pas le premier à affirmer l'existence de tels phénomènes. Par contre, Jung est le premier psy à le faire d'une manière aussi claire et aussi forte. Voici un exemple. Il s'agit d'un commerçant qui s'est allongé à son bureau pour faire la sieste. Il rêve que le facteur actionne la cloche de sa maison, s'abonne, ouvre la porte et récupère un paquet de journaux et de lettres. Sur le dessus du paquet se trouvait une lettre de couleur jaune. Il voyait cette lettre très distinctement, son aspect et sa taille. Lorsqu'il arriva chez lui, il demanda à voir le courrier. Le paquet de lettres se trouvait bien sur la console du vestibule, ainsi qu'il l'avait vu dans son rêve, mais sans la lettre jaune. 14 jours plus tard, la bonne lui présentera la lettre jaune qui était tombée derrière la console. Des exemples de la sorte, tout analyste avec de l'expérience en a rencontré suffisamment pour ne plus douter de leur existence. Ce phénomène n'est pas rare et concerne tout le monde. Alors, comment comprendre que la notion de tel rêve soit absente dans l'œuvre de Freud ? Tout ceci est une question de croyance, comme je vous l'annonçais en préambule. Si la sublimation fait partie du vocabulaire de la psychanalyse, la transcendance y est absente. Et c'est, selon moi, sa principale limite. Au début de son œuvre, Freud parlait encore de processus animique, en référence à l'âme humaine, qui par la suite a été expurgé au profit du terme « appareil psychique », rendant bien mieux compte de la vision mécanique des processus psychiques. Selon Freud, notre vie d'âme repose sur l'activité de notre cerveau en interaction avec l'ensemble du corps, et non l'inverse. Donc, à la mort du corps correspond la mort de l'âme. Ainsi, les phénomènes taxés de parapsychologie, dont les grands rêves, sont une hérésie pour la psychanalyse. J'insiste à nouveau, comme lors de l'émission précédente, sur le fait que le psy, quelle que soit son approche, n'a pas vocation à dire si telle ou telle croyance est juste ou fausse. Tout d'abord parce qu'il ne le peut pas. Mais quand bien même il aurait la vérité sur un tel sujet, son rôle n'est pas de dire ce que le sujet en analyse doit croire ou pas. Le but d'un psychothérapeute, tel que je l'envisage, est d'offrir un cadre qui permet dans un premier temps au sujet d'exprimer qui il est, sans jugement. On doit pouvoir accueillir tout le monde, quelles que soient leurs idées et leurs croyances. Et ce n'est que dans un second temps que l'on peut envisager de questionner ce qui est au fondement de ces idées et croyances, uniquement si le sujet souhaite s'engager dans un tel travail. Ainsi, nous pouvons aborder plus en détail le sujet des grands rêves qui nous interpellent et nous questionnent sur nos croyances les plus profondes. Il existe de nombreux livres de qualité et très intéressants sur ce sujet. Comme d'habitude, je me cantonnerai à vous donner un aperçu succinct dans le temps qui nous est imparti. Par souci de clarté, j'ai préféré les classer selon 4 types en rapport avec les 4 éléments fondamentaux de notre culture occidentale : la terre, l'eau, l'air et le feu. Commençons avec les rêves de type Terre. De par le lien à cet élément, ces rêves renvoient à notre attachement à la matière, ou si on veut le voir autrement, à notre difficulté à se détacher des choses matérielles. In fine, ces rêves ont tous un rapport avec la mort. Parmi les grands rêves de type Terre, généralement on retrouve, dans un premier temps, les rêves avec une personne qui nous est proche. Le plus souvent, ce sont des rêves où l'on retrouve la personne décédée dans un cadre réel pour vivre des choses du quotidien. Ces rêves reflètent toujours un désir de garder un lien avec la personne disparue. Ils ont quelque chose de compensatoire face à la perte de l'être cher. Mais si l'on tient compte de la croyance d'un bon nombre d'entre nous en l'immortalité de l'âme, alors une autre interprétation est envisageable. Le rêve est un moyen de communication avec l'âme du défunt ou de la défunte. Cette possibilité est particulièrement troublante dans le cas des rêves où la personne décédée vient nous révéler des choses sur l'au-delà. Alors, est-ce que c'est le rêve qui énonce les croyances sur l'au-delà par le truchement inconscient d'une image familière? Ou bien, est-ce vraiment l'âme de la personne décédée qui vient l'instruire dans son sommeil? Je laisse à chacun le plaisir d'y réfléchir. Ensuite, il existe également des grands rêves où on se confronte à l'idée de la mort, non plus à travers l'autre, mais directement. Ce sont des rêves où l'on se contemple mort. Des rêves où on assiste paisiblement à ses propres funérailles. Où on découvre sa tombe avec son nom écrit sur la stèle, ou parfois le trou grand ouvert qui nous attend patiemment. Ce travail d'acceptation de sa propre mort a déjà été abordé dans l'émission précédente, donc nous ne nous y attarderons pas davantage. Enfin, il y a des rêves historiques, où l'on se voit en costume d'époque, dans un pays ou une région du monde que l'on n'a jamais visité, parlant une langue étrangère, ou une langue morte que l'on ne maîtrise pas dans la réalité. Ces rêves peuvent faire référence à un intérêt particulier pour une période de l'histoire, une région, une langue. L'interprétation du rêve en tant que désir est toujours juste, mais pas complètement satisfaisante. En effet, parmi celles et ceux qui croient en l'immortalité de l'âme, certains considèrent la métempsycose comme la conception la plus pertinente pour expliquer et comprendre ce phénomène. Dans cette perspective, les rêves deviennent un outil adéquat grâce à leur scénario détaillé pour explorer nos vies antérieures. Voilà pour ce qui est des grands rêves de type Terre. Maintenant, intéressons-nous aux rêves de type O. Ce sont les rêves liés au sens subtil. Par exemple, la clairvoyance, c'est-à-dire la capacité à percevoir des choses qui ne sont pas matérielles, ou encore la clairaudience en ce qui concerne les sons. Les rêves liés à ces sens dits subtils sont particulièrement prisés des artistes, peintres ou musiciens en particulier. Nombreux sont celles et ceux qui trouvent leur inspiration originale dans leurs rêves et tentent de les retranscrire du mieux qu'ils le peuvent dans leurs œuvres. Les grands rêves de type O font également appel à la théorie des énergies subtiles. Il existe de nombreuses théories dans ce domaine. Pour faire simple, on part du principe que tout être vivant possède une énergie qui lui est propre et à travers laquelle il peut entrer en communication de manière subtile avec les autres. Cette conception énergétique viendrait alors expliquer les rêves télépathiques, ainsi que les rêves de soins à distance, technique répandue chez les medicine men d'Amérique du Nord, entre autres. Passons maintenant aux grands rêves de type R, qui sont les plus connus. Ce sont les rêves de vol. Ces rêves peuvent être interprétés comme une capacité de sublimation et ou de fuite face aux vicissitudes du quotidien. Il faut toujours garder à l'esprit ces deux hypothèses interprétatives, fuite, sublimation. Mais ces rêves peuvent aussi rendre compte d'une capacité de transcendance de l'âme humaine, et il faut être ouvert à cette possibilité. des rêves de vol bien particuliers nous invitent à la réflexion. Les voyages astraux. Encore une fois, ce type de rêve n'est pas réservé à une élite qui aurait reçu un don. Tout le monde est à même de faire ce genre de rêves. En tout cas, beaucoup en font, mais très peu osent les raconter, de peur d'être pris pour un fou. Si les scénarios sont tous uniques, la trame des voyages astraux est très souvent la même, ce qui est étonnant. Les personnes rêvent qu'elles sortent de leur corps, puis passent par la fenêtre, la porte, ou traversent un mur ou le plafond pour voler à l'extérieur. Si la sortie du corps est déjà une différence majeure avec les rêves de vol classiques, la suite est tout aussi remarquable, puisque les personnes se retrouvent à voler toujours plus haut, jusqu'à dépasser les limites de la Terre et voyager dans l'espace. D'où l'appellation voyage astro pour ces grands rêves. Enfin, terminons avec les grands rêves de type feu. Il en existe de deux sortes. Ceux correspondant au feu des entrailles de la Terre, le feu de Vulcain. Ces rêves sont en général nos pires cauchemars, car l'on rencontre nos monstres les plus profonds, nos démons les plus pervers, jusqu'à se confronter à notre diable intérieur. Il faut malgré tout les considérer comme des grands rêves. En effet, ce sont des rêves qui nous marquent toute notre vie, parce qu'ils nous permettent de prendre conscience de la réalité la plus noire de notre âme, que souvent on préfère ignorer. Et c'est un enseignement sur nous-mêmes qui vaut de l'or. Et puis, il y a le feu du soleil, le feu d'Hélios. Les rêves correspondants sont ceux qui nous renvoient à la notion du temps. Ainsi, on retrouve les rêves prémonitoires, qui concernent avant tout nous-mêmes et notre environnement proche. Et les rêves prophétiques, qui nous permettraient d'entrevoir la destinée de l'humanité, ou en tout cas d'une partie. Face à tous ces grands rêves, nous devons bien entendu faire preuve de discernement. Et les différentes interprétations d'ordre psychologique sont là pour nous y aider. Cependant, cette position psychothérapeutique ne doit pas privilégier telle conception de l'âme humaine au détriment d'une autre. Le rôle de l'analyste est d'accueillir tout le monde, quel qu'il soit, sans jugement, pour que la vérité du sujet puisse se révéler au grand jour. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine fois, et d'ici là, faites de beaux rêves.